aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, c'est l'avant-dernière émission. Demain soir, sur Sud Radio, eh bien, ce sera la dernière. En effet, je quitte Sud Radio pour voguer vers d'autres horizons professionnels et pour ne rien vous cacher, je pars vers le Lot-et-Garonne que je connais bien afin d'intégrer l'équipe de la mairie de Villeneuve-sur-Lot. Cela étant, le domaine de la recherche scientifique pour comprendre les phénomènes paranormaux reste toujours une passion et j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie des deux premiers tomes de la collection des aventuriers de l'étrange aux éditions Dervy. Le tome 1 est consacré au NDE, aux expériences de mort imminente. J'ai eu le plaisir de l'écrire avec le journaliste scientifique Jocelyn Morisson. Le tome 2 est consacré aux rêves prémonitoires et celui-là, j'ai eu le plaisir de l'écrire avec Pierre Massias du site psylande.org. Et ces deux ouvrages donc seront en librairie dès le 21 avril. Évidemment, plusieurs autres livres suivront, notamment le tome 3 sur les maisons hantées, les poltergeists, et le tome 4 aura pour thème les apparitions. Chaque livre est divisé en deux parties. Il y a une première partie témoignage et cas vécu que j'ai le plaisir d'écrire, et la seconde partie est consacrée à la recherche scientifique et aux expériences menées. En l'occurrence, là, pour les NDE, il s'agit de Jocelyn Morisson qui s'est occupé de cette partie, et pour les rêves prémonitoires et les prémonitions en règle générale, il s'agit de Pierre Massias qui s'est chargé de ce volet scientifique. Donc après toutes ces nouvelles, passons quand même au sommaire de notre émission de ce soir. En seconde partie d'émission, je recevrai Gabriel Ric-Chapuis, qui est thérapeute, qui exerce en Suisse et en France, et qui vient de publier aux éditions Dervy, dans la collection Chemin de l'Harmonie, un livre qui a pour titre « Guérir des blessures familiales », avec elle je parlerai de psychogénéalogie. Comment réussit-elle à déceler chez un patient des traumatismes vécus par ses parents ou ses grands-parents, ou même des fois ça remonte à un petit peu plus loin dans l'histoire de la famille? Comment lit-elle, selon elle, dans les corps subtils? Qu'est-ce qu'un corps subtil, comme le corps astral, le corps éthérique, selon elle? Enfin bref, nous nous poserons ensemble tout ce genre de questions. Mais pour l'heure, nous allons découvrir l'archéologie intuitive avec deux invités. Jean-Olivier Grand-Sardesmont, qui est docteur en archéologie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Alexis Champion, qui est docteur, lui, en informatique. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux membres de l'IMI, pour l'un, y compris membre du comité de direction de l'IMI, hein, c'est ça, c'est Alexis Champion, il me semble.
Oui, c'est cela, membre du comité directeur de l'IMI.
Très bien, je ne me suis pas trompé, tout va bien. Messieurs, donc avec vous, durant cette première heure, nous allons ouvrir un dossier passionnant, riche de promesses et riche déjà de réalisations étonnantes, donc l'archéologie intuitive. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
L'archéologie intuitive, c'est notre premier dossier dans les aventuriers de l'étrange de ce soir, avec donc mes deux invités, Alexis Champion, qui, je vous le rappelle, est docteur en informatique, et puis Jean-Olivier Grand-Sardesmont, docteur en archéologie. Plutôt que de commencer par la définition, on y reviendra bien entendu dans le cadre de cette conversation, commençons plutôt par un exemple. Puisque vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un dossier qui va être publié, coécrit par vous deux, qui va être publié dans le prochain numéro de Nexus, un magazine dont on parle souvent ici dans Les Aventuriers de l'étrange. Jean-Olivier Grand-Sardesmont, plutôt un exemple avec lequel vous commencez d'ailleurs votre article, un cas de fouille qui se déroulait en Amérique du Sud en 1939, je crois. Hein.
Tout à fait, oui. Effectivement, on a préféré commencer en fait par le cas de Tres Zapotes, qui est donc le site archéologique qui est concerné par la description. On a préféré commencer par ça pour que le lecteur puisse se rendre compte d'un cas concret, même si ce n'est pas une expérience scientifique qui a été menée. C'est en fait, là en l'occurrence, un travail spontané.
Oui.
Il y a une liaison avec la recherche, puisque c'était l'archéologue Wyant, Clarence Woolsey Wyant, qui était à l'époque étudiant sur ce, qui faisait sa thèse en fait sur ce site.
Ouais.
Le directeur du site à l'époque en fait, donc ce n'était pas lui.
Ouais.
La
Alors, il faut situer un petit peu géographiquement, oui. Visuellement, je dirais.
C'est en Amérique latine.
C'était en Amérique latine, du côté de Veracruz, hein, c'est ça?
C'est près de Veracruz, c'est ça, au Mexique.
Ouais.
C'était en fait sur le lieu où avait été déterrée la fameuse cabeza colossale Olmec, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un article dans Nexus dans le dernier numéro.
Mm-hmm.
À la fin du 19e siècle, cette découverte avait été faite. Et l'équipe était retournée là-bas pour poursuivre les fouilles.
Essayer de trouver de nouveaux indices d'existence pour...
De comprendre le site, de poursuivre le dégagement et de poursuivre la compréhension, en fait, du site.
Ouais. Alors, il y avait plusieurs collines. Enfin, c'était dans un environnement entouré de beaucoup de collines, c'est
de
ça ?
De monticules, oui.
De monticules, plus ou moins haut.
Il y en avait une cinquantaine...
Et alors, la difficulté, c'est de savoir où creuser. Enfin, quand on est archéologue, j'imagine
alors,
que la première
difficulté
c'est ça. Ouais.
Tout à fait. C'est la difficulté récurrente quand on est archéologue. Donc là, ce qui s'est passé, le lien qu'il y a en fait entre l'archéologie intuitive et ce chantier, c'est qu'il se trouve que les archéologues avaient commencé à creuser sur un monticule qui était donc tout simplement près de la cabeza colossale, puisque comme elle avait été déterrée, ils devaient se dire qu'il y avait plus de chances qu'il y ait du matériel dans les environs. En dégageant, ils ne trouvaient pas d'informations plus pertinentes, plus importantes. C'est quand même une expédition qui avait été mandatée par la Smithsonian Institution, excusez-moi pour l'accent, et la National Geographic Society.
Ouais.
Donc, ils avaient aussi un temps restreint par rapport au commanditaire.
Et un budget, j'imagine, également.
Et un budget, voilà, c'est ça. Donc, le directeur de la fouille, Matthew Sterling, avait fait un choix, en fait, et ce choix se révélait non fructueux pour l'instant.
Ouais.
Il se trouve que Wyant a un des fouilleurs, un des techniciens, en fait, présents sur le lieu, qui était un indigène, si je me rappelle bien. Voyant qu'en fait que l'archéologue était plutôt déçu, lui dit, mais écoutez, moi je peux vous indiquer un monticule où vous allez trouver ce que vous cherchez.
Bon.
Wyant plutôt surpris, mais un peu habitué parce qu'en fait il avait déjà eu l'occasion de faire un travail en fait sur l'impression psychique de négatif photographique, donc il avait un peu un passé de parapsychologue. Surpris, mais pas plus que ça. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il pouvait difficilement, en fait, transmettre l'information telle quelle, puisque le psy n'est pas quelque chose qui soit utilisé couramment en archéologie. Et puis, il y avait toujours quand même la question de la fraude. Ça se trouve peut-être que c'était, en fait, un archéologue qui avait... Enfin, un indigène qui, pour avoir un salaire... Puisque parfois, ça arrive sur les chantiers de fouilles que pour encourager au travail, à une époque en tout cas, on donnait un salaire plus élevé aux personnes qui trouvaient quelque chose.
Ah ben oui, d'accord. Une sorte de prime, quoi, en quelque sorte.
Exactement.
Ouais.
Tout à fait. Donc, je disais, c'est peut-être qu'en fait, ils cherchent à avoir une prime. Je ne sais pas comment ça marchait sur ce chantier, mais c'est une des possibilités.
Tout à fait.
À côté de ça, Wyant quand même disait bien que si jamais les objets correspondaient aux strates, que l'endroit, puisque en fait il y avait beaucoup de végétation sur ces monticules, n'avait présenté aucune détérioration, qu'ils avaient à véritablement faire la prospection sur une zone non défrichée, non remuée, ça serait bon.
Ouais.
Donc il a suivi la personne qui s'appelle Emilio Tegoma.
Ouais.
Et arrivé sur le terrain, donc à un peu plus d'un kilomètre de la zone où il travaillait auparavant.
Là où avait été trouvée cette immense sculpture de tête extraordinaire, donc voilà. Loin de ce lieu finalement.
À un kilomètre de la fouille en cours en fait.
Ouais.
Donc il lui désigne un monticule. Et il observe effectivement qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu défrichage, il n'y a pas eu terre remue. En fait, il y a tout à faire.
Ouais.
Il décide de déplacer l'équipe de fouille sur cette zone. Au final, effectivement, c'est de là que ont été trouvés en fait 90% des objets polychromes qui proviennent de traces apothèses.
Ouais.
Et donc une quantité importante de matériel archéologique, dont la figurine rieuse aussi, qui est apparemment un objet très connu. Je ne connais pas personnellement le site de Tres Zapotes. Les choses qui ont été publiées et qui sont... Et cette information n'est revenue, dans le circuit académique, que très longtemps après, lors d'une communication à l'American Anthropological Association, tenue à Mexico en 1961, alors que donc la recherche avait commencé sur le site de 13 Apothès en 1939.
Ouais.
Donc, et ça c'est sorti à ce moment-là parce qu'en fait, il y avait eu aux États-Unis en tout cas, une relation entre parapsychologie et archéologie qui se faisait, et anthropologie, puisque les Américains parlent plutôt d'anthropologie que d'archéologie directement.
Ouais.
Donc il y avait une relation en fait qui se faisait au fur et à mesure. Donc là, c'était une contribution qu'il avait faite sur parapsychologie et anthropologie.
Mmh. D'accord.
C'est lors de cette communication qu'il a présenté comment les travaux de Tres Apothès avaient été...
couronnés de succès grâce à une intuition, en fait.
Tout à fait, voilà. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans le cas d'une recherche scientifique, puisque Emilio Tegoma n'était pas un médium qui a été utilisé spécifiquement pour localiser le site. C'est comme ça peut arriver, je te dis qu'il y a, il y a du matériel, est-ce que tu me suis? Donc c'est ce qu'on pourrait appeler du psy spontané, on va dire.
Oui, tout à
fait. C'est pas comme les travaux de Schwartz, ou les travaux d'Emerson, ou les travaux de Stanislas. Oui,
oui,
Alexis.
Ce que je voulais rajouter, c'est qu'Emilio Tegoma, justement, est, effectivement, c'est, on peut appeler ça une intuition. Mais ce qu'il a dit à Wyant juste avant de que les fouilles commencent sur ce monticule, tu le sais en l'occurrence, je crois. C'est que Emilio Tegoma disait voir en fait ce qui se trouvait sous la terre.
Avoir la capacité,
oui. Voilà, c'était pas juste une intuition qui était utile. Tiens, il semblerait intéressant de creuser là. Il devrait y avoir quelque chose. Donc ça allait beaucoup plus loin que ça. C'est que Tegoma, qui avait plus de 80 ans, hein, c'est l'ouvrier le plus ancien sur le site, disait avoir la capacité de voir sous le monticule, à l'intérieur du monticule.
Pour un archéologue, c'est du pain béni, un monsieur comme ça.
Ah, oui, ça c'est sûr.
Oui, clairement.
On a bien vu, justement, Wyant, c'est ce qu'il a expliqué dans sa communication de 61, c'est que ça a fait économiser énormément de temps, énormément d'argent, etc. En plus, il y avait des pluies diluviennes à l'époque. Il fallait 2 jours pour vider l'eau qui se trouvait dans les tranchées.
Ouais.
Donc l'équipe n'avançait pas. Et c'est justement dans cette période très difficile que Tegoma s'est dit les archéologues américains commencent à se demander s'ils vont pouvoir trouver quelque chose lors de cette saison de fouilles. Tegoma s'est dit, tiens, je vais leur proposer mes services, on verra bien, quoi.
Bah oui. Et alors, en revanche, ce qui est intéressant également, même si Wyant, qui était alors un jeune, qui n'était pas encore archéologue, il préparait sa thèse, hein, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que lui a cru, a eu foi en ce que ce vieil homme, 80 ans, Emilio Tegoma, lui a dit. C'était pas gagné d'avance non plus. Il prenait un risque, Wyant.
Oui, Wyant prenait un risque. Rectification, il était quand même pas si jeune que ça, parce qu'il est plus de 40 ans.
Ouais.
Il avait déjà un doctorat en médecine, en fait, en chiropractie. Il a fait une petite carrière de quelques années en parapsychologie, et après il a attaqué des études d'archéologie.
Donc il avait un certain background.
Il a cru dans les capacités, parce que pour lui c'était c'est justement pour ça que nous-mêmes, Jean-Olivier et moi, on travaille sur l'archéologie intuitive, c'est qu'on est persuadé que ces capacités existent et qu'on peut les utiliser en œuvre. Wyant savait cela, enfin croyait en tout cas à cela. Et il a mesuré le risque quand même d'une fraude, comme l'a dit Jean-Olivier, ou d'une mauvaise perception de Tegoma, par ailleurs. Oui. Il a mesuré le risque, il a dit, il a pesé le pour et le contre.
Oui.
Il s'est dit, est-ce qu'on continue de creuser sur le monticule actuel qui ne donne rien, quitte à tout perdre lors de la saison de fouille, quitte à rien retirer du site, ou est-ce que je fais confiance à ce vieux monsieur? Donc il a quand même pesé le pour et le contre. Bon, le risque n'était pas énorme, on va dire. Dans le pire des cas, peut-être qu'il n'aurait rien trouvé sur le monticule C. Et ça aurait été une opération blanche, on va dire.
Oui, tout à fait. Alors,
je veux juste préciser une chose.
Oui, Jean-Olivier.
Il ne faut pas non plus prendre l'outil archéologie intuitive ou là comme étant la baguette magique qui va permettre de régler tous les problèmes des archéologues. Hein.
Nous sommes d'accord.
Ce n'est pas ça.
Hein. Oui, tout à fait. Non, mais là, nous sommes d'accord. Là, nous parlons de ce cas, précisément. Ensuite, on élargira le débat, évidemment, et on verra avec vous, d'abord, qu'est-ce que c'est exactement, dans quel champ d'action on peut situer le cadre de l'archéologie intuitive, et puis quels en sont les avantages et les inconvénients, et comment travailler avec cet outil. Ça, nous allons aborder ça dans les prochaines séquences. Mais en ce qui concerne Wyant, et puis puis la communication, puisqu'il y a eu découverte d'énormément d'objets. Vous l'avez signalé, Jean-Olivier Grand-Sardesmont, ça a été vraiment... si ce n'est des découvertes majeures, mais au moins très importantes concernant la civilisation Olmèque, est-ce que pourquoi avoir attendu 61 alors que la fouille a eu lieu en 39, pourquoi avoir attendu 61 pour en parler? Il y avait une espèce de réticence à dire, bah, c'est grâce aux capacités un peu bizarres d'un vieux monsieur qu'on a trouvé les fouilles, enfin qu'on a trouvé les objets.
Alors disons que dans les années
Alexis Champion,
qui précédèrent, il y a d'autres personnes, des Américains, je crois qu'il y avait Long en l'occurrence, qui avait fait des communications sur le sujet.
Oui.
Et à chaque fois, malgré... C'est arrivé exactement la même chose à Wyon, justement, en 61. Et ça reproduit le même comportement chez les archéologues,
oui.
La communauté scientifique. C'est que Long et d'autres avaient fait des communications sur le sujet. Et malgré un accueil spontané, on va dire, neutre, voire positif, ça n'a pas du tout été suivi d'effets quant à... l'introduction
vraiment comme un outil, voilà.
Donc Wyant pendant 20 ans a réfléchi sur la question et s'est dit, tiens, est-ce que je vais en parler ou pas, parce, sachant qu'il n'y aurait peut-être aucun effet, voire un effet négatif dans sa carrière, comme ça peut arriver, enfin,
oui tout voilà. À fait.
Oui, je rajouterais effectivement une chose pour le symposium qu'a lancé Joe Lang, c'est en 74 qu'il l'a lancé aux États-Unis, le symposium Rein Swanton sur la parapsychologie et l'anthropologie. Eu quand même un effet qui était l'élaboration de nouveaux séminaires et la création d'une revue, mais par exemple, à l'heure actuelle, je n'ai pas pu mesurer, enfin dans le travail que l'on a en course en archéologie intuitive, on n'a pas pu mesurer véritablement les retombées.
Mm-hmm.
Mais ça n'a pas été des retombées telles apparemment que on ait eu des suites. Même le premier travail d'archéologie intuitive qui a été fait par Frédéric Blackbone en Angleterre, il y a eu les fouilles dans les années 1907, la publication de sa fouille, c'est 1914, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, en fait, il a commencé à écrire les rapports sans indiquer comment il avait obtenu les informations.
Mmh. Oui, oui,
donc,
oui.
C'est quelque chose qui se répète hein, quand même dans le
oui.
Dans la recherche dans ce domaine-là.
C'est une constante lourde, on va dire.
Oui, malheureusement, oui. On espérerait justement que ça ne soit plus le cas parce que ça finit par faire, en fait, ce qu'on appelle l'effet tiroir, des travaux qui reposent sur de l'archéologie intuitive, mais qu'on n'a pas sorti. Du placard, on va dire.
Mais oui, qu'on n'a pas mis au grand jour pour que ça devienne un réel outil, quoi. Tout
voilà,
à fait.
Tout à
et
fait.
Reconnu, surtout. Messieurs, une pause dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir ce dossier absolument passionnant, l'archéologie intuitive, c'est-à-dire les capacités psy de certains ou certaines qui peuvent être tout à fait utiles à des archéologues. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'Étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.
L'archéologie intuitive dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio avec mes deux invités, tous deux membres de l'IMI, Jean-Olivier Grand-Sardesmont qui est docteur en archéologie et Alexis Champion, docteur en informatique. Alors, autant Jean-Olivier Grand-Sardesmont, je comprends que vous soyez intéressé à l'archéologie intuitive. Alexis Champion, docteur en informatique, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce dossier de l'archéologie intuitive spécifiquement ?
Alors, personnellement, je suis intéressé depuis tout petit par l'archéologie, l'histoire de l'humanité, etc.
Oui, oui, oui.
Et dans mes études d'informatique, j'ai travaillé principalement, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle. Donc, j'ai étudié le comportement humain et j'étais en relation dès le début de mes études de thèse avec des psychologues du comportement, etc. Et en parallèle, je me suis intéressé depuis l'âge de 15 ans à peu près à tout ce qui est phénomène psy, etc. Donc tout ça cumulé a fait que je me suis intéressé à l'utilisation des capacités humaines, même très spécifiques telles que le psy, on va dire.
Tout à fait.
À l'étude, à la récupération d'informations, l'obtention d'informations liées à l'histoire et à l'archéologie, etc.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Olivier Grand-Sardesmont, je m'adresse là à l'archéologue. L'archéologie intuitive, la définition, c'est les capacités psy au service de l'archéologie. C'est réducteur, mais c'est ça, non ?
Oui, non, mais ce n'est pas réducteur, c'est ça, effectivement. De la même façon que on a des outils en ethno-archéologie, par exemple, on demande à des ethnologues de fournir des informations pour l'archéologie, voilà.
Mmh. Ouais. Alors, comment peut-on utiliser, parce qu'il doit y avoir des avantages, des inconvénients, évidemment, en préambule, vous dites d'ailleurs dans votre dossier qui paraîtra dans le prochain numéro de Nexus, le magazine que je recommande très fortement, vous dites que là, on n'est pas soumis à l'obligation de preuve comme les études en laboratoire faites pour travailler sur la prémonition, sur les sorties hors du corps ou que sais-je. Là, en fait, on rentre vraiment dans la pratique et la preuve se fait d'elle-même ou ne se fait pas d'ailleurs.
Tout à fait, effectivement, puisque dans le cadre d'un travail de compréhension du psy, on a déjà besoin effectivement de pouvoir mettre en évidence le phénomène.
Oui.
Et comme en laboratoire, il faut pouvoir arriver à trouver des conditions qui permettent que ce soit un effet microscopique ou macroscopique, sachant qu'on travaille plutôt sur le microscopique à l'heure actuelle en parapsie,
bien sûr.
À mettre en évidence effectivement le fait qu'il n'y ait pas de fraude, le fait que tout soit bien... que le travail ait bien été effectué. En archéologie, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. C'est-à-dire que si, par exemple, il s'agit de localisation, on peut pas mettre une fraude si jamais vous avez eu 12 mètres à creuser pour arriver à tomber sur le site.
On est d'accord.
Ou même, d'ailleurs, si vous avez eu à creuser même 50 cm, sachant que les personnes, justement, comme on évoquait tout à l'heure, le cas de Tres Zapotes, n'arrivez pas à trouver quoi que ce soit sur la zone sur laquelle il trouvait, et il y a quelqu'un qui dit voilà, allez à tel endroit, vous allez trouver telle chose. Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas eu puisqu'il n'y a pas eu de publication des transcriptions de ce qu'a dit l'ouvrier.
Oui,
en
oui.
revanche, les travaux qui ont été faits par Emerson au Canada, qui est archéologue, qui est un archéologue très connu là-bas, Norman Emerson, puisqu'il est fondateur en fait de l'archéologie canadienne actuelle. C'est un des fondateurs.
Oui.
Là, il travaillait avec le médium George McMullen. Et là, George McMullen, on a des retours par les publications d'Emerson qui disant, voilà, cet espace-là, vous avez un mur, vous avez la porte ici, vous avez tel type d'objet, poterie, céramique à tel endroit, alors qu'on n'arrivait pas à trouver où se localiser le site indien qui était cherché par,
par
l'archéologue.
Ouais. Oui, c'est
disons
ça.
Que, la différence entre l'étude du psy, donc qui est faite par la parapsychologie, donc la science parapsychologique, on va dire, et l'archéologie intuitive, c'est effectivement que l'archéologie intuitive, on utilise les capacités psy, on les étudie pas pour elles-mêmes.
Tout à fait.
Le présupposé de départ, c'est l'a priori, on va dire, positif, c'est de dire ces capacités existent. Il y a des personnes qui sont capables de mettre en œuvre ces capacités à des fins de recherche archéologique, historique, etc.
Mmh.
Et on va chercher ces personnes, il y en a également quelques-unes qui sont connues, et on les fait collaborer à une recherche en archéologie.
Mmh. Voilà. Alors, de qui avez-vous besoin ? Quel est le profil de la personne qui possède des capacités psy qui peut intéresser un archéologue ? Quel type de capacité ? Sourcier, radiesthésiste,
en fait,
voyant.
Support. Alors là, oui, effectivement, c'est amusant parce que vous posez la même question d'ailleurs que beaucoup de parapsychologues.
Ouais.
Puis, mais en fait, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que le médium qui va intervenir, il peut utiliser le support qu'il souhaite. Donc, il peut être radiesthésiste et il va utiliser un pendule, par exemple. Il peut être voyant, il va utiliser des cartes d'astrologie, il peut plutôt utiliser la bibliomancie, c'est-à-dire aller chercher dans des livres des mots et obtenir après un élément cohérent.
Mm-hmm.
Ça relève, disons, de l'individu et de sa croyance dans la façon qu'il a d'obtenir l'information. Ça ne nous concerne pas. Ce qui va nous concerner, c'est plutôt l'information qu'il va nous donner. Et effectivement, après, nous, ce qu'on va pouvoir tirer de cette information, que ce soit pour la localisation de sites, par exemple, ou que ce soit pour une meilleure connaissance, répondre à une problématique en cours.
Mmh, mmh. C'est-à-dire un objet qu'on a découvert dont on ne sait pas à quoi il servait, on ne connaît pas son histoire, ou des choses comme ça.
Alors, ça peut être ça, ou par exemple, des échanges entre villes, on trouve des ossements et on cherche à se comprendre effectivement comment ces ossements ont pu se trouver à cet endroit-là, c'est-à-dire autrement dit pour l'élevage, Est-ce que c'est quelque chose qui a été importé, qui a été... Donc, les problématiques peuvent être très variées. Elles portent pas forcément spécifiquement sur un objet. Elles peuvent être sur un ensemble d'objets d'un même site ou un ensemble de sites.
Oui.
Mais ce n'est pas, on n'est pas là pour localiser l'objet sur un site en particulier.
Voilà. Oui, oui, oui.
Juste pour clôturer la chose, c'est que c'est en fait les résultats positifs qu'on obtiendra qui fera qu'on sait qu'on peut continuer à travailler avec la personne ou pas, suivant sa sensibilité aussi. Il y a des gens qui sont plus... Par exemple, Macmillan ne supportait pas les cimetières. Il avait tout ce qui était funéraire, en fait, il avait du mal à travailler dessus.
Oui. Ouais, ouais. Oui, oui, chacun après a ses spécificités, nous sommes d'accord.
Tout à fait.
Ouais.
Mais alors, aussi la difficulté d'ailleurs.
Ah oui, 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 complètement. Mais alors, dites-moi l'un et l'autre, qu'est-ce qu'il faut donner comme information? Parce qu'il faut pas trop en donner non plus. Enfin, j'imagine, il faut bien cadrer les informations à donner. On va appeler ça de manière que par commodité médium, hein, qui regroupe à peu près toutes personnes qui ont des capacités. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner comme matière à un médium pour après le faire travailler, le laisser travailler?
Alors, cela dépend de l'objectif du travail qu'on veut mener.
Ouais.
Donc, soit de la localisation, soit de la récupération d'informations pour générer des hypothèses, par exemple. Donc, bon, si on part de cette deuxième catégorie de travaux, donc on a, imaginons que nous avons un objet qui a été trouvé en fouille dans des conditions donc de fouille classique. Les archéologues savent où cet objet a été trouvé. On probablement certaines informations quant à la nature de cet objet, etc.
Si c'est un élément de poterie, par exemple.
Voilà, par exemple, ça peut être un vase, une poterie, peu importe, artefact quelconque. Donc nous, si on veut mettre en route, si on veut lancer une recherche d'archéologie intuitive sur cet objet, un des protocoles classiques, on va dire, c'est de prendre en photo cet artefact, de mettre la photo dans une enveloppe fermée. D'accord. Et la seule information donc que dispose au départ le médium ou les médiums qui vont travailler sur ce projet d'archéologie intuitive, c'est cette enveloppe qu'on leur met qu'on leur soumet.
Mais fermée.
Voilà, fermée.
C'est-à-dire
pas après c'est pas forcément scellé, ça dépend ce qu'on veut faire, mais bon, les moniteurs sont là pour bien vérifier qu'il n'y a pas de fraude. De toute façon, on a totalement confiance dans les capacités des médiums. L'information qu'on donne à ses collaborateurs qui ont des capacités psy est une photo non visible, en fait. Dans une première étape, c'est ça.
D'accord.
Donc ils partent de rien.
Et alors, donc, ils ont cette enveloppe. Alors après, ils la manipulent comme ils veulent. Ça, c'est leur cuisine, entre guillemets.
On en revient aux méthodes de tout à chaque, enfin, de chacun des médiums qui peut différer. Même pour un médium, différer d'une séance à l'autre. Hein. On en a vu s'amuser entre guillemets à faire de la bibliomancie lors d'une séance de travail, et la fois d'après, utiliser un pendule, etc.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, donc, charge à eux après de vous donner des informations. Mais alors après ces informations, il faut les traiter également. Ces résultats, les résultats, il faut les traiter. Jean-Olivier Bronsard Desmond.
Chacun son tour. Effectivement, il faut les traiter. Donc on a une première partie des informations, on va dire, qui vont nous permettre à se rendre compte qu'on est bien focalisé sur la cible. Sur l'artefact en question, donc on a les informations dites objectives, donc des informations qu'on connaît nous en tant que moniteur ou qu'on peut récupérer par ailleurs auprès de spécialistes de l'artefact en question. Donc, ces informations vont nous permettre de vérifier que lors de la séance, le médium a bien été sur la bonne cible. Voilà, c'est une première chose, donc bonne situation de l'artefact.
C'est-à-dire si c'est un objet d'époque antique romaine ou antique grecque ou
ce type d'information.
Voilà, tout à fait.
Donc, ensuite, comme on fait en archéologie intuitive, normalement, certains types de travaux, on va dire, on peut travailler avec plusieurs médiums. Donc là, on peut recouper aussi des informations subjectives, donc recouper des informations données par plusieurs médiums. Donc si on travaille avec 5 médiums et que 3 ou 4 ont donné la même information,
On peut se dire que là, bon...
Je précise d'ailleurs une chose, c'est que c'est pas on peut travailler avec plusieurs, c'est on doit travailler avec plusieurs pour justement arriver à recouper les informations.
Ça, c'est le cas idéal.
Ah oui, donc il vaut mieux travailler avec plusieurs médiums, effectivement.
Oui.
D'accord. Alors,
justement, pour pouvoir faire des recoupements et s'assurer de, d'une probabilité, on va dire, de
la véracité
de l'information.
Oui, oui, tout à fait.
La capacité psy, c'est... avant tout une perception, une récupération d'informations, et comme toute perception, même une perception visuelle ou autre, peut être erronée ou biaisée, etc. Donc faire travailler plusieurs personnes sur une même cible, un même artefact, permet de limiter les biais ou les distorsions relatives à la perception d'informations.
Ouais. Et alors, donc, vous recueillez ces informations, un recoupement est fait pour voir si les 4 ou 5 médiums sont allés dans la même direction, et ensuite, jusqu'où peut-on aller dans le détail concernant l'artefact, l'objet qu'il a entre les mains, enfin, la photographie de l'objet, qui, je le rappelle, est dans une enveloppe scellée. Jusqu'où peut-on aller dans le détail, dans l'obtention d'informations?
Alors, ça dépend de certains facteurs. Déjà, ça dépend du temps dont l'équipe dispose.
Oui.
À l'heure actuelle, en ce qui nous concerne, pour un projet qu'on a en cours, on est au départ, donc on ne peut pas répondre nous-mêmes à cette question. En revanche, pour des travaux qui ont déjà été effectués, je pense en particulier au travail de Norman Emerson sur un bloc d'argilite gravé, qui avait été présenté donc à Macmullen lors d'une convention qui avait eu au Canada.
Macmullen qui était un médium, hein.
C'est ça. George Macmullen était le médium et Norman Emerson était l'archéologue.
L'archéologue, oui. Mmh. Voilà.
Donc en fait, ce bloc d'argilite a été présenté à George Macmullen qui a mentionné en fait l'histoire de ce bloc gravé par un noir de Port-au-Prince, amené en esclavage depuis les côtes africaines. Enfin, quelque chose qui était complètement aberrant par rapport aux connaissances des archéologues de la présent. Mm-hmm. C'était, quand il avait fait cette présentation, c'était que Emerson avait présenté une contribution sur un travail donc de parapsychologie, d'archéologie intuitive, donc, avec Macmullen. Et lors du dîner qui a suivi, en fait, la convention, un des archéologues a dit, puisque vous travaillez là-dessus, est-ce que vous pourriez me donner l'histoire de ce document dont je comprends pas trop la teneur?
Ouais.
Là-dessus, George Macmullen a donc sorti l'histoire que je vous ai citée tout à l'heure, qui est apparue aberrante, y compris pour Emerson. Mais Emerson, ayant déjà eu l'occasion de travailler avec George Macmullen et souhaitant quand même en savoir un peu plus, malgré tout, a entamé une recherche, et donc justement, ça a été un des premiers travaux d'archéologie intuitive avec un groupe de médiums, est allé voir d'autres médiums, a eu des informations identiques, autrement dit, qui permettaient de voir, comme disait tout à l'heure Alexis, le fait que plusieurs personnes avaient des mêmes morceaux de l'histoire à présenter, qui étaient subjectifs parce que liés à l'individu, mais qui se recoupaient entre ces différents individus.
Histoire qui était en contradiction avec la version officielle.
Tout à fait, oui. Emerson était aussi allé voir un spécialiste de l'Afrique en rapportant en fait les propos des médiums et en poursuivant en fait le travail de recoupement des informations auprès des différents spécialistes et des médiums, il a pu reconstituer l'histoire qui a pu se révéler effectivement par la suite exacte par rapport aux indices archéologiques qui étaient connus par ailleurs concernant la présence de caravelles transportant
les esclaves.
Rapport à notre indice, il faut bien saisir effectivement que l'archéologie intuitive est un outil parmi tant d'autres. Autrement dit, il ne fonctionne pas seul.
Oui, tout à fait.
C'est en fait la convergence des indices obtenus par l'ensemble des outils dont l'archéologue a à disposition, que ça soit la fouille, que ça soit la discussion avec des historiens, donc par rapport aux informations textuelles, avec des ethnologues, c'est l'ensemble de ces informations qui permet de pouvoir faire de l'archéologie intuitive un outil intéressant. Sinon, ça n'a pas de...
Oui, pour revenir à votre question initiale qui porte sur jusqu'où nous pouvons aller sur l'obtention d'informations, quelle information on peut obtenir, etc. Disons ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que tous les sens peuvent être mis en jeu chez le médium. C'est-à-dire que la vision peut être utilisée, l'odorat, énormément l'odorat, etc. le toucher, les émotions et également le symbolisme. C'est-à-dire qu'on peut, ce qui est intéressant avec l'archéologie intuitive, hormis le fait essentiel de pouvoir trouver des choses ou d'expliquer certaines autres choses, d'émettre des théories, c'est qu'on a des informations très fines, très, très détaillées, très poussées sur la vie des gens, la mentalité des gens de l'époque, etc.
Ouais.
Voilà. Et qu'on recoupe, ce sont des informations qui sont presque toujours impossible à essayer objectivement. Hein.
Évidemment.
Donc, les seules preuves qu'on peut avoir, c'est justement à partir des informations subjectives des différents médiums et qu'on recoupe entre elles.
Très bien. Une pause, Jean-Olivier Grand-Sardesmond et Alexis Champion dans ces aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir ce dossier passionnant de l'archéologie intuitive, les capacités psy au service de la recherche archéologique. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi sur Sud Radio.
L'archéologie intuitive en compagnie de mes deux invités ce soir dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Tout à l'heure, nous parlerons avec mon autre invité, la thérapeute Gabrielle Rigg-Chapuis de la psychogénéalogie. On découvrira cette méthode thérapeutique de plus en plus en vogue d'ailleurs en France et en Europe. Mais pour l'heure, donc l'archéologie intuitive avec Jean-Olivier Grand-Sardesmond qui est docteur en archéologie et Alexis Champion, docteur en informatique, tous les deux membres de l'IMI. Et qui ont rédigé un dossier que vous pourrez lire, dossier passionnant sur l'archéologie intuitive qui paraîtra dans le prochain numéro du magazine Nexus. Jean-Olivier Grand-Sardesmond, Alexis Champion, j'imagine que quand on ouvre les champs du possible en liant donc les capacités psy de certains médiums et la recherche archéologique, on se dit, il y a bon, à moi l'Arche d'Alliance, à moi la Croix de Jésus, à moi les tables de la loi, enfin, on y va, quoi. Ça doit ouvrir des perspectives hallucinantes. Là, je pose la question à l'archéologue, justement.
Oui, non, mais alors, justement. Ça,
oui, alors attention, on pose des pieds sur terre.
On souhaite faire enfin, quand je dis on souhaite éviter, c'est pour une seule raison, c'est que l'objectif, c'est de faire en sorte que cet outil soit au même titre que tous les outils existants à l'heure actuelle en archéologie, c'est-à-dire les outils physico-chimiques, par exemple pour la datation, la caractérisation des matériaux, les outils de connaissance des fabrications comme l'ethno-archéologie. Donc, résultat, on s'est effectivement plutôt penché sur des artefacts qu'on trouve sur des sites archéologiques pour lesquels j'ai des problématiques de recherche en cours, mais sur des artefacts habituels, que ce soit la céramique, que ce soit l'iconographie, pas sur des documents effectivement qui sont polémiques et qui seraient de suite grandioses, on va dire, sachant qu'un travail a quand même déjà été fait qui est intéressant. Par Stéphane Schwartz sur le phare d'Alexandrie, par exemple.
Je voulais vous amener sur ce terrain, évidemment.
Oui.
Alors, racontez-nous justement les travaux de Stéphane Alexandre Schwartz.
Donc, vous voulez dire par rapport au projet d'Alexandrie?
Bien sûr.
Le projet Alexandrie est un travail qui, là, la différence donc, de Tres Apotès, était orienté vers l'archéologie intuitive pour savoir effectivement comment ça pouvait être utile. Avec donc, en l'occurrence, une présentation de parapsychologue. C'est-à-dire que Stéphane Schwartz n'est pas archéologue. C'est une personne qui s'occupe surtout de l'organisation de projets, mais qui a un background de parapsychologue important, et donc il a fait en sorte de pouvoir mettre en évidence, ce qui était très intéressant lors du projet Alexandrie, par exemple, entre une prospection par sonar et une prospection par médium.
Ouais.
Donc c'est le seul travail d'ailleurs qui a été fait malheureusement dessus, il faut espérer qu'il y en ait d'autres qui suivent. D'autant qu'il avait eu des résultats donc dans la zone de prospection de East Harbor Port par prospection sonar et prospection de médium avec des sites localisés de façon plus forte par les médiums que par le sonar, pour une raison simple, c'est qu'il y avait beaucoup de bruit par rapport à l'ensemble des pierres qui étaient présentes au fond de l'eau, alors que pour le médium, il n'était pas gêné par ces bruits. Donc ça, c'était une des parties de l'expérimentation.
Et là, le but de la recherche, c'était de trouver quoi ?
Alors, il y avait plusieurs objectifs. Il y en avait un qui portait sur le tombeau d'Alexandre, donc justement, pour, qui fait le lien avec la question que vous posiez tout à l'heure.
Alexandre le Grand, dont le tombeau n'a jamais été retrouvé, oui.
Tout à fait, si ce n'est que donc là, apparemment, il y a de bonnes... Enfin, il est toujours sur la piste de l'ossuaire. Je dis de l'ossuaire, je ne parle plus du tombeau, parce que si vous... Il a fait un ouvrage qui s'appelle Le projet Alexandrie, qui est traduit en français, dans lequel il mentionne l'ensemble de son travail... sur ce projet et justement la recherche sur le tombeau d'Alexandre qui s'est en fait transformée au fur et à mesure en recherche sur les ossements même d'Alexandre, le tombeau n'existant plus en fait à l'heure actuelle.
D'accord.
Donc c'est un projet en cours, donc on peut pas à l'heure actuelle on peut pas trancher sur ce qu'il a obtenu comme information.
Oui, pour préciser
Alexis
sur ce
Champion,
point,
oui.
Donc ce que indique Stéphane Schwartz vis-à-vis de ces ossements supposés d'Alexandre, c'est que la fin de sa quête, entre guillemets, vu que c'est justement, oui, c'est quelque chose d'assez emblématique, un objet assez, enfin, un objet, on parle pas d'artefacts, vu que ce sont des ossements, mais recherche emblématique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas possible, enfin, aussi aisément possible que ça, c'est en 78, c'est la recherche avec l'ADN. Donc Schwartz pense avoir localisé ces ossements et ce qu'il espère faire cette année ou l'année prochaine, c'est une analyse ADN de ces ossements pour prouver
que c'était que c'est bien,
que c'est bien la personne dont, qui l'intéresse.
Tout à fait.
Pas si simple que ça, voilà, puisque pour l'instant prouver la personne, prouver la rigueur de quelle
l'origine,
origine, voilà.
Macédonien vivant à l'époque qu'Alexandre,
mais on ne pourra pas que c'est Alexandre, puisque ce n'est pas possible dans l'état actuel des recherches.
Tout à fait, oui. Et puis on n'a peut-être pas non plus de partie d'Alexandre le Grand autre qui peut faire mettre
la
comparaison.
Ça, voilà, on n'a pas d'éléments de comparaison, donc c'est pour ça que je préfère.
oui, tout à fait. On aurait encore une poignée de cheveux ou une sorte de relique, mais là, ou supposé relique, évidemment.
Ça, c'était un des objectifs. L'autre objectif, c'était de prospecter dans la zone de Marea, qui était une zone supposée ne présenter aucun vestige archéologique. Ils ont dégagé, en fait, un bâtiment avec une équipe égyptienne, d'archéologues, j'entends. Hein. J'ai refait une fouille. Il y a eu une fouille par la suite tout à fait officielle qui a été faite. Le troisième, c'était donc une prospection pour arriver à retrouver la grande bibliothèque. C'est la grande bibliothèque ou le phare ?
Ils ont travaillé sur les deux. Mais ensuite, ils se sont focalisés. Disons que la première phase de la recherche qui s'est faite à distance, donc aux États-Unis en grande partie, sur des cartes, portées sur divers monuments, etc., dont le phare d'Alexandrie et la grande bibliothèque. Et quand ils sont arrivés sur place, avec notamment George McMullen et Ella Hamid, donc en Égypte avec Stéphane Schwartz, ils se sont focalisés plus sur le phare d'Alexandrie plutôt que sur la grande bibliothèque qui apparemment posait plus de difficultés.
Mais alors le médium qui a travaillé donc sur ce projet, comment travaillait-il puisqu'il travaillait depuis les États-Unis uniquement avec des cartes
ou plusieurs médiums impliqués sur le projet, je crois. Entre 5 et 10, je crois. C'est ça,
Il n'y en a que deux qui sont venus sur le terrain, mais il y en avait effectivement plusieurs qui, depuis les États-Unis, ont fourni des informations.
Quand les médiums travaillent sur carte, chacun de son côté donc, essaye de localiser les sites importants, qui peuvent être demandés ou pas demandés, hein, ça dépend ce que le médium perçoit comme étant important. Ensuite, ce qui est fait, c'est qu'on reporte toutes ces localisations de chacun des médiums sur une carte composite. Et à partir de cette carte composite...
C'est quoi une carte composite ?
Donc c'est... en fait, on reporte sur une carte vierge tous les éléments localisés par chacun des médiums. Donc si un site est localisé par 3, 4 ou 5 médiums, on peut supposer qu'on a de fortes chances de trouver quelque chose à cet endroit. Donc on établit cette carte composite. Ensuite, ce qui est généralement fait en fonction des disponibilités de chacun par ailleurs, c'est que si trois médiums ont localisé un site intéressant, on leur demande d'aller sur le terrain et une fois sur le terrain, de fournir de plus amples informations pour aider à la localisation de l'accès ou de l'endroit où il faut fouiller, etc.
Là, affiner leur recherche, devenir de plus en plus pointu, quoi.
Voilà.
Ouais. Et est-ce que il y a eu des Jean-Olivier Grand-Sardesmond, donc il y a des cas comme ça où ça a fonctionné, où on a trouvé des sites, bon, on parle pas du premier exemple que vous nous avez cité, mais découvertes de monuments, de portes, de choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'avéré. Là, on n'est pas dans la supputation.
Oui, il y a eu plusieurs équipes. Il y a eu effectivement plusieurs. C'est-à-dire que le travail en archéologie intuitive a quand même un siècle d'histoire.
Oui.
Une histoire qui ne porte pas que sur les États-Unis ou le Canada, mais qui a porté aussi sur l'Angleterre, qui a porté aussi sur la Pologne, qui a porté
aussi sur
l'ex-URSS. Donc, après, l'ennui, c'est par exemple, je ne parle pas le chinois ni le japonais, donc je ne sais pas s'il y a eu des travaux là-bas. Parce que malheureusement, par exemple, je dis ça parce que les travaux qui ont été faits en URSS dans les années 70,
oui,
commandités par l'État, en l'occurrence,
oui,
par le chercheur Plouznikov, était en fait, donc l'objectif c'était de localiser les contours d'objets architecturaux et historiques souterrains, par le moyen de la méthode biophysique. C'est un autre nom de l'archéologie intuitive, comme archéologie psychique aussi, qu'on trouve assez fréquemment. Et ces recherches, je n'ai pu les connaître que parce qu'il y avait eu, et de même que les autres chercheurs qui s'intéressent, il y avait eu un article en anglais qui était paru. Mais il y a certainement eu un rapport en russe qui a été remis.
Bien sûr, vraisemblablement.
Voilà, et ça, par exemple, c'est une des choses que, dans le cadre du projet de Time Machine, on est en train de recenser pour arriver à retrouver, c'est-à-dire arriver à faire le recensement exhaustif de l'ensemble des travaux qui ont été effectués en archéologie intuitive. Avec le problème de la barrière de la langue, donc.
Oui, j'imagine, évidemment. Jean-Olivier Grand-Sardesmond, Alexis Champion, je rappelle que nous parlons donc de l'archéologie intuitive dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Cet outil qui paraît extrêmement intéressant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus utilisé? Parce que finalement, il n'a pas beaucoup d'inconvénients. Je veux dire, une personne ou cinq travaillent sur des cartes ou enfin à distance, laisse l'archéologue tranquille sur son chantier, sauf si l'archéologue a besoin de précision. Enfin, ça me paraît très très efficace et, pour employer un terme purement économique, très très compétitif finalement comme outil.
Alors, c'est moi qui vais répondre en l'occurrence.
Jean-Olivier Grand-Sardesmond, oui.
On sait qu'il a été efficace pour les personnes qui l'ont employé.
Bah oui,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui l'ont employé pour lesquelles ça n'a pas été efficace.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'une des limites très importantes de cet outil, c'est la relation établie entre l'archéologue et le médium, ou les médiums.
Oui.
C'est un lien très subtil, dans lequel il y a quand même certaines choses à respecter qui sont pas encore, et là on utilise la parapsychologie, qui sont pas encore complètement connues. C'est-à-dire que arriver à créer ce lien nécessite une connaissance déjà du psy, une reconnaissance aussi du psy, du fait même que
ça déjà,
la possibilité de pouvoir obtenir une information par d'autres biais que ceux que l'on connaît à l'heure actuelle, par d'autres biais sensoriels que ceux que l'on connaît à l'heure actuelle. Ça, c'est pas quelque chose de reconnu en France à l'heure actuelle pour l'instant. Mais dans les autres pays, y compris les États-Unis, où pourtant c'est une recherche qui s'est beaucoup développée au XXe siècle. Donc là, c'est peut-être une évolution des mentalités. Juste quand même pour comparaison, j'y reviens souvent parce que c'est un exemple très emblématique, je trouve, la datation carbone 14. Quand elle est apparue, déjà les résultats étaient faux, puisqu'il n'y avait pas la calibration par l'endrochronologie qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a eu un accueil très mitigé, il y a des gens qui étaient carrément contre.
Ouais, d'accord.
Ça a mis du temps avant que ça devienne cet outil qu'on a aujourd'hui, qui est d'ailleurs apparemment la panacée, alors que c'est quand même pas le cas. Il y a d'autres méthodes parfois qui sont plus sûres, mais qui est un outil effectivement très utile.
Ouais.
Donc il est très possible que, c'est pas très possible, c'est on connaît les mêmes choses pour l'archéologie intuitive, on va dire.
Ouais.
En plus, les travaux ont été à chaque fois des travaux qui ont été faits par une personne, quel que soit le pays. Pas forcément bien implantée dans la communauté scientifique, et même quand elle l'était, n'a pas pu avoir en fait de personnes qui ont suivi. Donc il n'y a pas eu vraiment de groupe de recherche qui ait été formé pour avoir un travail dans le temps.
Oui, ça n'a pas initié une dynamique, c'est ce que vous êtes
non,
en train de dire.
Non, voilà, oui, c'est ça. Oui. Donc nous, on aimerait justement arriver à pouvoir initier cette dynamique, tout en restant très raisonné sur la chose, au sens où c'est ce qu'on compte faire, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer.
Oui. Mais à ce moment-là, comment obtenir que les choses avancent, bougent, puisque là, contrairement à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'étude des phénomènes paranormaux en laboratoire, où là, il faut obtenir la preuve de la preuve, etc. Mais là, il y a un passé, il y a des résultats tangibles, il y a évidemment, comme dans toute expérience, des ratés, des erreurs, évidemment, mais il y a des preuves selon lesquelles ça a fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On sent qu'on n'est pas loin, là, finalement, de pouvoir enclencher cette dynamique, justement.
Oui, alors, c'est une question, comme vous savez, excessivement complexe.
Je vous remercie de me l'avoir posée.
Oui, mais on se la pose tous les jours, alors c'est pour ça que c'est très difficile de répondre, parce qu'on n'a pas de réponse toute faite. La seule réponse qu'on a aujourd'hui, enfin, qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est comme dit Jean-Olivier tout à l'heure, c'est de travailler, encore travailler, et de produire des résultats. Tant que faire se peut, avoir des liens avec l'archéologie académique, etc., avec tout un tas de personnes qui pourraient être intéressées.
Autrement que sous le manteau, on va dire. En tant qu'archéologue, je sais très bien qu'il y a un certain nombre de collègues qui travaillent avec l'archéologie intuitive, même s'ils ne connaissent pas le nom, c'est-à-dire qu'ils demandent à un radiesthésiste de localiser un site.
Ah oui,
donc ça
c'est...
jamais publié.
Dans le fond, le problème est probablement plus lié au fait que ces sujets sont parfois tabous ou voilà.
Mais
le fond du problème.
Il y a autre chose peut-être. Enfin, là, je m'adresse à Jean-Olivier Grand-Sardesmond, archéologue. Je rappelle, vous êtes docteur en archéologie. Le fait de dire dans une communication, quand on est archéologue, bon, on a découvert une magnifique villa romaine avec des mosaïques somptueuses, deux, trois sculptures en bronze. Enfin, bref, le pied, quoi, le top, très bien, parfait. Le fait de dire que, je l'ai découverte non pas grâce à mon talent de chercheur, mais grâce à un radiesthésiste qui est arrivé avec son pendule, qui m'a dit il faut creuser là, c'est peut-être reconnaître également une faiblesse dans ses compétences aussi, peut-être, non?
Je pense pas que ce soit au niveau de la faiblesse des compétences, parce que on sait très bien, quand on est en archéologie, qu'il n'y a pas de... à part à faire appel à une prospection électromagnétique, une prospection géophysique, c'est-à-dire les outils technologiques qu'on a, mais qui sont très chers, donc on n'a pas toujours les moyens de pouvoir...
Bien sûr, j'imagine, oui.
Et en particulier dans des fouilles de sauvetage, par exemple, qu'on ne peut pas forcément mettre en branle parce qu'on n'a pas le temps. C'est surtout la forme, on va dire, c'est-à-dire le fait que ça s'appelle un radiesthésiste, un peu comme on fait appel à un rebouteux, ça fait pas sérieux. Et ça fait pas sérieux aussi parce qu'il n'y a jamais eu effectivement l'idée de se dire qu'on peut arriver à le remettre dans un cadre académique, que ce sont pas du tout des... il s'agit pas de magie, il s'agit pas de surnaturel, il s'agit pas d'extraterrestres, de petits bonhommes verts débarqués sur la Terre qui vont nous indiquer où se trouve... Voilà. Mais c'est pas si simple d'arriver à faire comprendre que ces éléments qu'on ne connaît pas encore, comme à une époque on connaissait pas l'électricité et qu'aujourd'hui on l'utilise très facilement, on peut faire la même chose avec le psy, sans tomber justement dans ce travers d'une croyance en un surnaturel. On peut très bien recourir au psy sans qu'il y ait besoin de recourir à du surnaturel. Voilà.
Oui. Et puis il y a peut-être aussi un manque de... Pour moi, simplement, un manque de curiosité. C'est-à-dire que, imaginons que votre théorie soit juste concernant la difficulté pour un archéologue d'admettre qu'il a fait appel à quelqu'un d'autre, etc. Il peut contourner cette difficulté, par exemple, en apprenant lui-même à faire de la radiesthésie et à travailler avec cet outil lui-même.
Et
je pense que là, il y a un manque de curiosité et peut-être de pragmatisme, enfin je sais pas trop,
Juste une information justement pour préciser ce que disait Alexis, c'est que à côté de ça, on peut pas être observateur et observer. Donc si effectivement l'archéologue peut apprendre à faire la radiesthésie, tout à l'heure on parlait des biais liés à la perception. Justement, s'il y a une attente trop forte, c'est-à-dire parmi les limites par exemple que l'on a, c'est que si on a une attente trop forte de la personne, on peut avoir ce biais où en fait il va penser avoir une information et en fait c'est l'information qu'il voulait qu'il sorte et pas l'information réelle. Enfin, là, on entre un peu dans le détail, donc c'est pas évident. Mais il n'est pas du tout conseillé que la personne qui cherche et la personne qui fournit l'information soit la même.
Parce que s'il a envie de
travailler sur le site l'un de l'autre.
S'il a envie de retrouver les bras de la Vénus de Milo, évidemment, s'il essaye au pendule, son envie va polluer évidemment sa recherche.
Oui, voilà. Donc, mais pour rendre neutre la situation, on va dire, c'est un archéologue qui est spécialiste, imaginons, de sites celtiques en France, peut exercer l'art de la radiesthésie, par exemple, sur un site en Égypte, sur une autre fouille qu'il ne connaît pas du tout.
Mais oui, tout à fait. Tout à fait.
Là, ça permettrait une certaine neutralité,
voilà, distance,
et de potentiellement vérifier que ça marche, et à partir de là, lever certains tabous et faire rentrer tout ça dans une pratique plus courante.
Mais alors, justement, où en est...
Pour que le travail puisse se faire, il faut évidemment partir, comme on le dit tout à l'heure, du postulat que le psy existe. Si la personne part du postulat que ça n'existe pas, elle ne pourra rien trouver. On ne trouve que ce qu'on cherche.
Exact.
Et ça, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir. Cette phrase-là, je l'ai vue dans un colloque il n'y a pas longtemps, d'archéologues, justement, qui travaillaient sur l'archéologie et politique, où on ne trouve que ce qu'on cherche. Et ça se vérifie pour d'autres choses, de façon plus courante, comme en architecture, où certaines informations, certains indices archéologiques ne sont visibles que pour les personnes qui savent ce qu'elles recherchent aussi.
Donc si la personne
part du postulat que le psy n'existe pas, elle n'obtiendra aucun résultat. Ça, c'est clair.
Nous sommes d'accord. Une dernière pause avant la conclusion, tous les deux, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Une pause et ensuite, après ce dossier consacré à l'archéologie intuitive, nous parlerons de psychogénéalogie et d'observation dans les corps éthériques, dans les corps divins d'un individu. On verra ça avec une thérapeute qui s'appelle Gabrielle Rick-Chapuis. Puis à tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
L'archéologie intuitive, toute dernière ligne droite consacrée à ce dossier passionnant avec mes deux invités, Jean-Olivier Gransard-Desmond, docteur en archéologie, et Alexis Champion, docteur en informatique, tous les deux membres de l'IMI et auteurs d'un dossier qui paraîtra dans le prochain numéro du magazine Nexus. L'un et l'autre, au sein de l'Institut Métapsychique International, donc, où en sont vos avancées? Vous pensez pouvoir proposer aux scientifiques, aux archéologues, quelque chose de béton, de construit, quand?
Dans très longtemps. faut être franc et honnête. Hein.
Oui, allons-y.
Comme disait Jean-Olivier tout à l'heure, c'est beaucoup de recherches ont été entreprises depuis une centaine d'années, mais ça n'a pas été pérennisé. C'est-à-dire que nous, à l'Institut Métapsychique, nous avons un axe de recherche, un programme de recherche relatif à l'archéologie intuitive. Et le tout premier point de ce travail, tout premier objectif, c'est de recenser le maximum de travaux et de s'appuyer là-dessus pour nous-mêmes travailler.
Bien sûr.
Donc on a par ailleurs donc des projets de terrain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en plus de cette travail sur l'état de l'art, sur la bibliographie.
Bien sûr.
Donc, notamment un projet qui s'appelle Time Machine et qui a un travail de très longue haleine, puisqu'on suppose qu'il va nous prendre au moins 5 ans, où on repart, pas de zéro, mais presque. C'est-à-dire qu'on monte une équipe, on a monté une équipe de médiums, une équipe de collaborateurs, de moniteurs, etc. Parce que c'est un travail qui demande de nombreuses ressources et connaissances, capacités dans divers domaines, et c'est très long en temps. C'est-à-dire que toute séance, par exemple, de travail avec les médiums est enregistrée en audio ou en vidéo, et après, cette séance est retranscrite. Donc là, en un an, on a fait une vingtaine de séances, on peut s'imaginer, une séance en plus est très intensive et ça dure 2 heures, on peut s'imaginer le temps que ça prend. Donc on commence à voir beaucoup d'informations sur des artefacts, etc. Le travail n'est pas fini. Ensuite, il fait que commencer. On doit analyser toutes ces informations, décortiquer tout cela en concept, triturer tout ça pour voir ce qu'on peut en tirer, pour ensuite donner ces informations à des spécialistes.
Histoire de les corroborer, de les infirmer ou de les affirmer.
Voilà. Ouais. Et ensuite, pour pouvoir voir si les hypothèses qu'on en tire sont corrélés ou sont déjà connus, etc., ou si on peut générer de nouvelles hypothèses.
Tout à fait.
Donc ça, c'est une partie du travail. Une autre partie du travail, c'est de répondre à des demandes, par exemple de Stéphane Schwartz ou d'autres personnes extérieures à l'Institut, et pour lesquelles on mène des projets d'archéologie intuitive.
Tout à fait.
Voilà. Donc ce n'est pas à nous, dans ces cas-là, de montrer, on va dire, les résultats, Ce n'est pas à nous de dire, voilà, on l'a trouvé, c'est beau.
On met les ressources, on met les ressources de l'Institut au service d'équipes qui souhaitent travailler en archéologie intuitive, ce qui est le cas, par exemple, de Stéphane Schwartz, qui voulait faire un travail en France.
Ouais.
Donc, on fait en sorte de travailler avec des médiums et de faire tout l'enregistrement audio, les découpages, d'en assurer la traduction en anglais, puisqu'il ne parle pas français, pour que ça puisse, que lui puisse récupérer les informations
et s'en servir,
terminer
après.
L'analyse après, et faire le travail et l'accompagner aussi sur le terrain. Donc on sert aussi de plateforme d'interface en fait entre les États-Unis et la France pour la logistique, pour l'équipe de télévision qui doit venir pouvoir enregistrer l'information, etc.
Ouais.
Là, en l'occurrence, c'est un projet qui est en cours et le travail à distance est effectué aux États-Unis. Il est en train de s'effectuer en France à l'heure actuelle.
Ouais.
Le travail de terrain aura lieu avant la fin de l'année. Donc, s'il y a des résultats, ils seront connus probablement courant 2009. Quoi.
Eux, ils seront obtenus plus rapidement.
Ouais,
un des travaux qu'on a aussi par rapport à Time Machine, donc, comme le disait Alexis, c'est la question du recensement. Et une des difficultés qu'on rencontre, et c'est là où on perd aussi beaucoup de temps, c'est d'arriver à trouver des traducteurs. Par exemple, tout à l'heure, je vous évoquais Poujnikov, donc les travaux en russe.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc il faut aussi faire les recherches en russe. C'est-à-dire que l'Internet, c'est très pratique comme type d'outil, mais si vous ne connaissez pas la langue...
Voilà, c'est un peu compliqué. Mais dites-moi, Schwartz travaille sur quel site, sur quel projet, si ça n'est pas indiscret, puisqu'il s'agit de la France?
Alors, la région, c'est la Dordogne, mais on va en rester là pour l'instant, parce qu'il ne souhaite pas communiquer
Oui, ce que je comprends, tout à fait.
Mais s'il y a communication, je pense qu'il y aura communication, parce que... Que ça marche ou pas, en fait.
Il a toujours communiqué.
Il a toujours communiqué, donc c'est de la recherche.
Et d'ailleurs, il a un site internet sur lequel on peut récupérer les articles qu'il a publiés sur le sujet, que ce soit pour Alexandrie ou que ce soit pour le Caravel Project. Les articles sont plus détaillés que les ouvrages qui sont sortis. Mmh.
Bon. Merci en tout cas de nous avoir consacré du temps.
Juste pour...
Jean-Olivier Grossard,
On fait en sorte d'arriver donc à rassembler les archéologues ou toutes les personnes qui travaillent en histoire, qui sont des universitaires ou qui sont des chercheurs, qu'ils soient français ou étrangers, les rassembler pour arriver à constituer une équipe toujours plus importante, de telle façon qu'on puisse démultiplier le temps de travail dessus, en donnant des petits travaux à chacun pour faire en sorte d'arriver justement à publier plus rapidement. Parce que vous imaginez, quand on parlait du travail de recensement et du travail de terrain qui est fait à l'intérieur de l'Institut même, ça, c'est une première phase du projet. On parlait d'un axe de recherche, c'est parce qu'on a bien l'intention d'en faire d'autres phases. L'idée, c'est quand même d'étudier cet outil. On en est encore à une phase de défrichage, malgré le fait qu'il y ait un siècle de travail dessus. C'est un siècle de travail publié, mais pas de transmission du savoir de façon orale par le travail sur le terrain des personnes qui ont travaillé dessus.
Oui, tout à fait. J'attends donc avec impatience la publication des travaux de Schwartz et puis les vôtres par la même occasion.
Excusez-moi, j'en profite justement pour signaler que Stéphane Schwartz a publié un ouvrage, donc Opening to the Infinite, aux États-Unis l'année dernière.
Oui.
Donc j'ai l'honneur de traduire cet ouvrage et il sortira en France avant la fin de l'année.
Ah, ça c'est très bien. Chez quel éditeur?
Nous ne savons pas encore, c'est en cours de discussion, c'est presque... bouclé, on va dire, mais je peux pas donner le nom de l'éditeur actuellement.
Bon, très bien. On attend cette information que l'on retrouvera sur le site, entre autres, psylande.org et évidemment sur le site de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Alexis Champion, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir expliqué à ceux et celles qui nous écoutent les arcanes de l'archéologie intuitive. Jean-Olivier Grand-Sardesmond, merci également. Et puis, bonne route à tous les deux. Et on attend avec impatience, même si c'est long, parce que le vrai boulot scientifique est long. Même si c'est long, on attend avec impatience les résultats de vos travaux. À très bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir. Dans quelques instants, nous allons radicalement changer de sujet. Nous allons parler de psychogénéalogie avec l'auteur Gabriel Rick-Chapuis, qui a publié aux éditions Dervy, dans la collection Chemin de l'harmonie, un livre qui a pour titre « Guérir des blessures familiales ».
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.